Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'écouter Radio Okapi. Dans ce numéro du magazine Identité culturelle, nous parlons de la place du sacré dans la société congolaise. C'est quoi les sacrés? Qui détermine le sacré dans une société? Y a-t-il des conséquences à profaner le sacré? Voilà certaines des questions auxquelles répondent nos invités. Il s'agit de Kennedy Wema, journaliste intéressé à la culture, et M. l'abbé Henri Chiza, docteur en théologie avec une spécialisation en liturgie. Je suis Rosalie Masikazawadi à la présentation de ces magazines produits sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
Quand l'homme ignore le sacré, il s'ignore lui-même. La société dans laquelle le sacré n'est pas pris en compte perd son orientation. C'est ce qu'a dit M. l'abbé Henri Chiza. Mais avant de les recevoir, rendons-nous d'abord à Butembo pour rencontrer Kennedy Wema. Il est journaliste et s'intéresse beaucoup à la culture. Il nous présente le sacré dans sa communauté.
Chez nous, les Banandés, le sacré porte sur beaucoup de choses à la fois. Le sacré peut porter sur des personnes, le sacré peut porter même sur des lieux, comme le sacré peut porter sur des animaux. Donc il ne s'arrête pas seulement sur des personnes, mais dans notre tradition de Banandé, cela devait se rapporter aujourd'hui, même si aujourd'hui on voit que beaucoup de gens ont commencé à abandonner le sens même du sacré. Et je pense que c'est parmi les raisons qui font qu'il y ait beaucoup de calamités. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et la première chose qui était sacrée ou qui doit être sacrée chez les Banandé, c'est la parole. La parole est sacrée. Il y a même un terme chez le Banande qui dit « On monte le mèche à Tsangomo chinois, à 4 4. » Ça veut dire on ne s'amuse pas avec la parole. On peut s'amuser avec un bâton, mais pas avec la parole. Ça veut dire la parole, elle est sacrée. Parce que la parole est le porteur. Pour désigner un enfant qui vient de naître, on lui donne un nom. Ce nom, c'est la parole. Ça veut dire on les charge que la valeur que tu dois véhiculer dans la société, durant ta vie, c'est celle-ci. On te donne donc un nom. C'est le sens de la parole. C'est ce qui fait que s'il arrivait que quelqu'un devienne intraitable, vraiment complètement intraitable, le parent pouvait le maudire. Mais la malédiction, c'était une parole. Quelqu'un prononce une parole et cette parole te poursuit. C'est-à-dire, la parole est à charger de valeur, elle était sacrée. Donc, les gens qui parlent généralement, chez les Nandais, c'est des gens qu'on ne respectait pas beaucoup. Ah, ils parlent beaucoup. On ne pouvait pas les respecter suffisamment. La seconde chose qui était respectée et qui doit être respectée, c'est la mort. La mort, elle est subjective. Disons, c'est pas quelque chose qui est palpable. Encore moins qu'elle n'est pas comme la parole, parce qu'elle, elle est accompagnée par des rituels, par des événements. Généralement, par exemple, quand quelqu'un mourait, pour participer au rituel des morts, ce n'était pas tout le monde. Il y avait des initiés qui devaient le faire. Il y avait des initiés qui devaient, par exemple, aller creuser les tombeaux. Par exemple, les femmes devaient s'arrêter à faire les lamentations. Ils ont pleuré. Et c'est les hommes qui s'occupaient d'autre chose. Donc la mort, en elle seule, elle était sacrée. Quand j'ai dit la mort, mais j'avais ajouté le mort aussi. Disons, le corps de celui qui n'a plus de souffle. Il était sacré. Par exemple, les enfants ne pouvaient pas voir un cadavre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens s'amusent dans les cimetières. Vous voyez à l'endroit des deuils, les enfants viennent d'asser là-bas, et d'autres viennent chercher à manger. Bon, je ne sais pas. Donc, d'autres viennent chercher autre chose. Donc, je pense qu'on a banalisé la mort. Et c'est parmi les choses qui font que s'il y a une criminalité, c'est puisque les gens ont banalisé. Mais avant que quelqu'un mourait, la mort, c'est quelque chose de sacré. Et plus sacré parce qu'on en avait peur. La troisième chose qui est sacrée chez les Manande, c'est généralement la femme. La femme, elle est sacrée. Par rapport à l'homme, la femme, elle est sacrée. Elle est sacrée parce que c'est par elle que la vie vient au monde. Et je vais insister sur la femme, mais la femme d'autrui. La femme d'autrui, ça commence par votre maman. C'est la femme de votre papa. À partir de ce moment-là, elle est sacrée. Et donc, on respecte la femme Pas parce que seulement elle donne la vie, mais parce que la femme d'autrui, on doit la respecter. Même des gens, les chefs, ou même des gens, les sauvages, ou les gens, les brutaux, savent que la femme, on ne la touche pas. La femme, elle est sacrée. Mais cela aussi rentre sur le... Quand je parle de la femme comme état sacré, il y a des rituels qui se faisaient et qui ne pouvaient se faire que par la femme. Un homme ne pouvait pas exécuter tel rituel, quel que soit son rang, ses moyens, c'était propre à la femme. Et avec la femme, on associe les enfants, qui sont disons les bébés. Les bébés sont sacrés. On ne s'amuse pas avec les bébés. Chez les Nandes, par exemple, on peut vous dire que le serpent ne peut pas mordre les bébés. Donc, si un serpent arrive dans la maison, il peut contourner un bébé. Parce que, c'est pas parce qu'il est inoffensif, mais je pense que parce qu'en lui, il incarne des valeurs sacrées que le mal ne peut pas l'atteindre.
Et en parlant des rituels qui ne pouvaient qu'être exécutés par les femmes, vous pouvez donner un exemple?
Bon, les rituels qui pouvaient être exécutés par les femmes, par exemple, quand on intronise le moami. Le moami, quand on l'intronise avec sa femme, parce qu'on le met dans un trou. On dit « Akasengobo Machetaka », ça veut dire « on lui donne le pouvoir que lui vient de mourir et il va ressusciter ». Et on le met dans le trou avec la femme. On ne pouvait pas l'introniser sans qu'il y ait sa femme. Donc, vous voyez le sens qu'on ne veut pas avoir un moami célibataire. Donc, la présence de la femme pour que tu exerces le pouvoir d'être le moami, le chef des autres, la femme doit participer à cette intronisation. On ne veut pas, non, prenez son ongle, même si je sais que l'ongle représente énormément, je vais parler du sacré de l'ongle après, mais on ne pouvait pas faire de toi un roi sans que la femme soit là. Et ça, ça fait qu'elle incarne la partie du sacré dans les rituels de l'intronisation du moami. Et en parlant des personnes, laissez-moi parler des aînés. Généralement, chez les Banandes, les aînés sont sacrés pour les cadets. Ça veut dire, mon grand frère ou ma grande sœur, il est sacré par rapport à moi. Et il y a d'autres petits détails qui s'étendent jusqu'aux jumeaux. Par exemple, les jumeaux sont sacrés parce qu'il y a un mythe autour des jumeaux que, par exemple, si les jumeaux peuvent arrêter la pluie. Vous pouvez décider que non, tel va se marier tel jour, mais nous ne voudrons pas qu'il pleuve parce que la pluie peut perturber. Vous allez parler aux jumeaux. Il y a des gestes que les jumeaux exécutent et la pluie s'arrête. Bon. Et à cela, on charge les jumeaux d'un certain sens du sacré. Mais aussi, dans le sens de la famille, il y a l'oncle. L'oncle chez les Nande est une personnalité sacrée. Par exemple, l'oncle du roi, il a un grand pouvoir. Mais même des gens dans les rituels, vous ne pouvez pas vous marier chez les Nande s'il n'y a pas votre oncle. Il a des choses à faire, il y a des rituels qu'il fait. Même pour lever un deuil, l'oncle du défunt, c'est lui qui dit, bon, aujourd'hui, on va arrêter, bon, on peut commencer à aller au champ. Mais c'est toujours l'oncle qui porte des gestes. Si vous êtes un enfant récalcitrant dans votre famille, on vous avoue chez votre oncle que lui, donc il a le sacré en lui pour vous remettre sur les rails. Il y a aussi la tante, mais pour la tante, généralement, elle est sacrée pour les filles. Parce que dans les rituels du mariage, elle représente beaucoup, c'est elle qui donne le conseil pour dire c'est comme ça qu'il faut te comporter avec ton mari, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pour l'ensemble, disons, tout de la famille, quoi.
Merci Kennedy. Là, vous venez de parler du sacré sur le plan humain dans votre communauté chez les Nandé. Mais est-ce qu'au-delà des personnes, il y a d'autres sacrés, je ne sais pas, d'autres faits qui sont sacralisés chez les Nandé?
Oui. En dehors des personnes, ou de la parole, ou de la mort, il y a des rituels qui sont sacrés. Par exemple, le mariage est sacré. Le rite du mariage, il est sacré. Chez les Banandé, il y a le terme qu'on appelle le Moussamberanjingo. Ça veut dire, si je traduis littéralement, c'est monter dans les lits. Les jours du mariage, tout le monde sait comment les mariages se consomment. Donc, on doit laisser au marié le temps. C'est aujourd'hui qu'on commence à traîner les mariés jusqu'à 22h, jusqu'à 23h. Non, on laisse au marié le temps. On dit, laissez-les aller se marier, en fait. Ce qu'ils nous ont montré, ils nous ont dit que désormais, s'ils partent, nous n'avons pas de questions à nous poser. Il y a des rituels aussi, par exemple, comme l'intronisation du moami, tout le monde ne participe pas. Ce sont des rituels sacrés. Il y a des personnes habilitées à participer à ça. Vous pouvez apprendre qu'on va introniser le moami, oui, mais Le rituel, non, il y a des initiés qui, eux seuls, peuvent participer à ça. C'est comme le rituel d'accompagner les morts. Ce n'est pas tout le monde qui est censé, par exemple, j'ai donné un exemple, laver un cadavre, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce sont des rituels qui sont sacrés et où il y a des personnes qui sont habilitées à le faire. Tout le monde dans la famille ne peut pas le faire, ou tout le monde dit, bon, je suis aussi ici, je peux le faire. Non, c'est du sacré autour de tout ça. C'est comme la dot. Aller déposer la dot, il y a tout un rituel qui accompagne tout ça. Hein? Ce n'est pas que tout le monde, par exemple, pour amener la dot chez la fille qu'on va épouser, on ne prend pas n'importe qui dans la famille que non, va aller là-bas. Non, il y a des gens qui sont habilités ou ceux qui vont discuter avec les visiteurs. Ce sont des rituels sacrés qu'on ne fait pas, qu'on ne pose pas en vaikevai. Ensuite, il y a aussi des lieux sacrés. Des lieux sacrés, par exemple, ce qu'on appelle les bohémas. C'est une véranda en paille chez les moamis dans laquelle véranda se passe des cérémonies sacrées. Et tout le monde ne veut pas venir dans les bohémas comme ça. Hein, c'est un lieu sacré. D'ailleurs, déjà, aller contourner autour des bohémas, vous pouvez avoir des problèmes. Bon, il y a des lieux comme les monts sacres. Les monts sacres, c'est quoi? C'est dans Europe, vous allez voir qu'il y a, par exemple, un grand buisson. Et on vous dit, quand vous passez là-bas, il ne faut pas siffler, par exemple. C'est un endroit sacré où on suppose, par exemple, qu'il y a des esprits qui protègent la communauté, habitent là-bas. C'est également, par exemple, les cimetières. Les cimetières, chez les Banandais, il y a ce qu'on appelle, figuier, qu'on plante là-bas. Et c'est un endroit que vous ne pouvez pas vendre. Même si vous vendez votre terrain, c'est le vôtre. Mais généralement, là où il y a un figuier, on suppose que vos ancêtres sont enterrés là-bas, vous ne pouvez pas vendre ce qu'on appelle les maheros, donc là où il y a ces figuiers. Il y a également les hautes montagnes. Les hautes montagnes comme les Chavirimu. Déjà, le sens Chavirimu, ça veut dire la montagne des esprits. Ce sont des endroits où on ne va pas s'amuser, où on ne va pas badiner. Tout le monde ne peut pas aller là-bas sans le sens du sacré. Mais je vais aller sur les derniers détails sur le sacré. Il y a des animaux sacrés. Les animaux sacrés, chez les Nandes, il y a un animal, une chèvre mâle, qu'on appelle le Chibunja. C'est un bouc qui peut arriver chez vous et il va brouter si vous avez étalé vos maïs là-bas. Vous ne pouvez pas le chasser parce qu'il est sacré. Il traîne autour de lui le sacré. Et quand il est petit, il y a un monsieur qui se balade. Moi, j'ai eu la chance dans mon enfance de le voir. Un monsieur qui se balade avec, je ne sais pas comment on le choisit, non, je ne sais pas. Mais il y a un monsieur qui se balade avec une petite boucle comme ça, en tampant sur les tambours. Quand il arrive là où il y a les hommes, on doit lui donner la boisson gratuitement. Et les boucles vont boire dans le même récipient avec le monsieur qui tape les tambours là. On ne l'égorge que les jours du rituel de l'initiation. Lorsque les garçons sont circoncis, comme on les circoncisait avant dans la brousse, dans la forêt, quand on les initie, ce jour-là, le jeune qui vient d'être circoncis, on va égorger le bouc à question, on appelle le Chibunja, et ils vont manger morceau par morceau. Il y a un grand rituel autour que, par exemple, les os de Chibunja, on ne les broie pas. Hein? On doit les mettre dans le feu pour qu'ils chassent les démons, pour que le parfum qui sort de ces os chasse les démons et tout ça. Ça, c'est un animal qui est sacré. Mais il y a des animaux sacrés maléfiquement. Par exemple, les hiboux, c'est les Banandais. Même si la nuit vous attendez un hibou, dites-vous qu'il y a quelque chose de très grave qui va se passer. Donc, c'est un animal maléfique, mais qui a l'essence du sacré. La même chose comme les caméléons. Les caméléons, chez les Banandais, par exemple, il est doublement sacré. Il est sacré parce que si c'était un caméléon en corne, c'était porte-malheur. Mais si c'était un caméléon ordinaire, on peut soigner les gens avec du sang du caméléon. Par exemple, on dit que si on coupe la queue du caméléon, si vous avez des oreilles qui suintent et qu'on fasse tomber les gouttes de sang de caméléon dans votre oreille, l'oreille va arrêter, donc va être guérie. Bon, autant d'interdits autour des animaux. Il y a par exemple des animaux sacrés, lesquels? Il y a un animal, un oiseau qu'on appelle Nyarututu, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Il a comme des cornes sur la tête. Il y a des plumes comme des cornes. Si vous les voyez, par exemple, en allant au champ, il faut rentrer à la maison. Parce que c'est un oiseau de mauvais augure, mais il porte ses sacrés tel qu'on ne peut pas les manger. Tel qu'on a peur de lui. Mais il a ce sacré-là à lui, mais même si ce sacré-là, il est maléfique. Mm-hmm. Voilà à peu près à ramasser ce que j'ai pu dire du sens du sacré chez les Banandés. Mais ce qu'ils font dire, en gros, c'est que la parole, elle est sacrée. Parce que c'est ce qui... Si vous dites quelque chose, c'est une charge. Et en dehors de la parole, je veux souligner que la femme, elle est sacrée.
Merci Kennedy de nous avoir parlé du sacré dans votre culture. Mais est-ce que la non prise en compte du sacré dans la vie de tous les jours a des conséquences sur la vie de la communauté?
Ça dépend de ce que je crois, de ce que les gens croient. Mais moi, je crois qu'il y a certains sens du sacré lesquels, en les banalisant, nous avons amené l'opprobre sur la communauté. Par exemple, désacraliser la femme. Avant, quelqu'un qui commettait le viol, on l'excluait de la communauté. Il devenait un paria. Okay? On l'appelait à Kinande, on me combera. Ça veut dire un paria. On te chasse du village. Tu deviens sauvage, quoi. On te chasse. Même là où tu vas aller, si tu arrives dans un truc, tu dis non, ce monsieur-là, il y a une histoire, c'est lui. Vous ne saurez pas vivre. Vous êtes pire qu'un sorcier. Mais aujourd'hui, il y a des gars qui violent et c'est devenu un peu normal. Ils banalisent jusqu'au viol. C'est là, le fait de désacraliser la femme, cela ne peut pas nous amener quelque chose de bien pour la communauté. L'essence de désacraliser des lieux. Avant, il y avait des endroits pour crier vers Dieu. Il fallait aller à cet endroit-là. Mais vous vendez ces endroits-là. Vous les vendez à des gens, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Ils commencent à fabriquer des briques là-bas, ou je ne sais pas foutre quoi là-bas. Non, le fait de vendre, par exemple, des lieux sacrés, que ça devient des endroits où tout le monde peut aller se balader, cela peut énerver les ancêtres. Parce que moi, je crois aux ancêtres. Tout en étant chrétien, je crois aux ancêtres. Donc, je suppose que désacraliser les tombeaux, par exemple, profaner les tombeaux. Je vois des gens qui construisent ici des tombeaux dans des villes. Ça ne peut pas nous amener du bonheur. Les gens qui sont là-bas, qu'on a enterrés là-bas, peuvent se fâcher. Si eux ne peuvent pas se fâcher, mais au moins leurs familiers vont prononcer des paroles qui vont nous suivre. Et quelqu'un va dire, non, tu vois, moi on est ici, mais on s'est marié, mais je n'ai pas d'enfants. Mais vous habitez sur les tombeaux d'autrui. Comment vous voulez avoir des enfants? Donc, je pense que le fait de banaliser le sacré a de la conséquence sur notre communauté. Et même, le fait d'oublier de dire aux enfants qu'il y a du sacré. Par exemple, nous ne savons pas dire aux enfants que les enfants ne doivent pas aller là où il y a un cadavre. Non, la mort est sacrée. Il ne faut pas aller s'amuser là-bas. Je me rappelle quand nous étions des enfants, nos parents nous disaient, d'ailleurs si on apprenait que quand on a traversé, par exemple, si on va enterrer quelqu'un et qu'on passe par votre avenue, si les parents se rendent compte que toi tu es allé regarder, tu auras une punition. Et parce que ce n'est pas bien que les enfants... Ce n'est pas pour les enfants, c'est du sacré, c'est pour une catégorie de gens qui doivent participer à ça. Mais aujourd'hui, on voit des gamins aller jouer dans des cimetières, ils s'allongent ici des tombeaux. Quand il va échouer à l'école, on dit non, c'est l'ongle là qui l'a sorcellé. Non, mais l'enfant a touché des choses sacrées lesquelles il ne faut pas s'amuser avec. Le manque de respect vers les aînés, parce que les aînés sont sacrés. Mais les familles se déchirent pour des choses comme ça. Les sérieux auraient voulu, à partir du moment où l'aîné est sacré, c'est l'aîné qui devait guider. Mais si lui aussi a le sens que être aîné, il y a plus aîné que lui. Ça veut dire qu'il y a du sacré plus que lui. C'est pas que parce que je suis le premier de la famille, donc je suis l'aîné, donc je prends les décisions. Non, il y a plus aîné que moi. Ma mère déjà était sacrée, donc je devais me référer à ma mère pour prendre les grandes décisions. Donc je pense que banaliser les sacrés et commencer à trouver que tout ça, c'est quoi même? C'est là. A un grand impact négatif dans les comportements au sein de la communauté.
Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Nous parlons de la place du sacré dans la société congolaise. Le sacré n'est pas une invention de l'homme, explique notre invité, M. l'abbé Henri Tshiza, docteur en théologie avec une spécialisation en liturgie. Il commence par définir le sacré.
La définition du sacré n'est pas si facile. Il faut aller très loin, il faut aller à la création, parce que on parle de la société, mais toute la société est sacrée parce que tout est créé. tout porte une empreinte de Dieu. Tout notre environnement, nous-mêmes, nous avons une partie du sacré. Donc définir le sacré en soi, c'est pas facile, mais nous pouvons dire globalement que le sacré est la part de présence du Créateur dans les créatures. Pour bien le comprendre, on l'oppose généralement au profane. Le profane, ce serait ce en quoi on ne voit pas directement cette empreinte de présence du Créateur. Là, on donnerait l'exemple facilement. La présence du Créateur dans l'arbre n'est pas la même que dans une pierre. Dans l'homme, sa présence n'est pas la même que dans un animal. C'est tout à fait normal. Donc, en voulant comprendre le sacré, on l'oppose à ce qui est profane. Et le profane serait ici ce qui ne porte pas visiblement l'empreinte du Créateur. Mais globalement, s'il faut remonter à la création, toute créature, même la pierre, si je l'ai placée dans le domaine du profane, porte l'empreinte du sacré.
Dans notre relation avec les sacrés, comment on arrive à déterminer la force de cette empreinte dans un objet, dans un lieu?
Là, c'est question maintenant de croyance. La croyance nous permet de reconnaître que les créatures porte l'empreinte du Créateur. Et cette relation de l'homme aux créatures oblige plus ou moins de tenir cet espace qui mérite respect parce qu'il y a cette empreinte du sacré. Donc l'homme, s'il faut parler de l'homme, ne s'approche pas de la réalité comme si elle était toute profane. La croyance l'aide à reconnaître dans la création, dans les créatures, cet espace de présence et donc le respecter. Donc dans notre relation avec les créatures, animaux ou végétaux, notre foi, notre croyance nous permet toujours de pouvoir les approcher avec un certain respect parce que nous y reconnaissons plus ou moins la présence de leur Créateur. Voilà. Donc là, il faut parler de la foi ou de la croyance pour savoir ce qui va régir ces respects. Donc, c'est cela qui nous pousse à avoir ces respects. C'est notre croyance qui nous éclaire plus ou moins et à avoir les degrés de rapport et de respect à l'égard des créatures.
Monsieur l'abbé Henri, en allant un peu au-delà de la création, il y a par exemple dans certaines communautés où c'est établi, où c'était établi que, par exemple, on ne va pas en brousse, on ne va pas chasser un vendredi. On ne viole pas ça. Comment est-ce qu'on sait déterminer la valeur du sacré à ce niveau-là?
Là, alors, je crois que ce n'est pas directement question de détermination de foi, mais c'est plutôt question de tradition. Et les traditions s'inspirent toujours de ce que l'on croit. Donc, il peut se faire que dans une culture, il y a des traditions qui permettent à l'homme de pouvoir observer dans l'échelonnement du temps, cet espace reconnu au Créateur. Là, vous parlez de vendredi par rapport à certaines cultures, mais par rapport à la foi, nous avons le dimanche, c'est presque la même chose. Les chrétiens vous diront, dimanche, nous ne travaillons pas, nous devons aller à la messe. Parce que ces jours-là, dans l'écoulement du temps, portent une empreinte spéciale de foi. Les musulmans vous diront, vendredi, c'est notre jour de prière. On arrête le travail, on va à la prière et on reste à la maison. Parce que ces jours-là, dans la profession de leur foi, dans leur croyance, portent une empreinte spéciale qui permet de révéler la relation entre la personne et le Créateur. Mais l'exemple que vous avez donné, madame, touche directement les domaines traditionnels. Nos traditions aussi s'inspirent de ce que nous croyons. Donc, on ne détermine pas des faits au hasard. On détermine des faits pour que ces faits nous permettent d'observer une certaine relation avec le Créateur. Ne pas perdre complètement notre relation avec notre origine, que le Créateur est peut-être aussi notre destinée, qui est toujours le Créateur, qui se place au début et à la fin. Donc, dans l'écoulement du temps, les hommes ont eu à trouver des moyens, notamment de telles délimitations temporelles, pour permettre aux générations de ne pas perdre cette relation, cette empreinte du sacré dans l'histoire et dans la vie.
Et dans cette désignation, détermination des sacrés, qu'est-ce qui définit les sacrés? C'est une convention? Ce sont les hommes qui se mettent ensemble? Ou ce sont des circonstances qui font qu'on décide de sacraliser telle chose ou tel lieu, par exemple?
Je voudrais répondre en deux orientations. La première orientation, c'est que le sacré n'est pas l'invention d'un homme. Ou dans la réalité de la vie, le sacré est inhérent à la vie de créer. Donc ce n'est pas une invention. On n'invente pas que l'homme porte l'empreinte du sacré. On n'invente pas que la nature est sacrée, qu'elle a été créée. On ne l'invente pas. Mais d'autre part, il y a la volonté des hommes qui crée des espaces sacrés. Et là, nous pouvons citer les églises, par exemple. L'église, c'est une maison comme toutes les autres, construite comme toutes les autres. Mais les hommes se décident de la mettre à part pour que cet espace serve de façon particulière à la rencontre entre l'homme et le créateur. Là, c'est un espace sacré décidé des hommes. Donc, il y a d'une part le sacré inhérent à la vie des hommes et d'autre part le sacré est voulu des espaces, voulu des hommes, justement pour toujours permettre cette rencontre entre l'homme et le créateur.
Est-ce que c'est cette observance des lieux, des objets, du sacré, est-ce que cela avait un avantage?
Cela a toujours eu beaucoup d'avantages. Parce que quand l'homme ignore le sacré, il s'ignore lui-même. Nous revenons sur la même chose. L'homme vient du sacré. Et ici, donc, nous parlons de nos origines, des dieux. Et il va vers Dieu. Ainsi, étant créature, il porte la marque, l'empreinte du sacré. Ignorer le sacré, c'est s'ignorer soi-même. Ignorer le sacré, c'est aller à la dérive. Ignorer le sacré, c'est ouvrir une société sans loi et sans foi. C'est une société désorientée. Par le passé, le respect, la relation avec le sacré a toujours été de grands bénéfices pour la vie des hommes. Les relations des hommes, quand elles sont mues par le sacré, eh bien, on voit combien et comment ces relations sont portées dans le respect dévolu à la personne, dévolu aux relations, dévolu aux créatures. Plutôt, quand le sacré est ignoré et rejeté de l'homme dans la société, il y a toutes les dérivations et toutes les déviations possibles. Eh bien, c'est là que nous avons des tueries. Quand je ne reconnais pas en l'autre l'empreinte du sacré, je le traite comme je l'entends. Je piétine son image, sa dignité. Donc, il y a des tueries, il y a des violences, il y a des bévues. Donc, quand le sacré n'est pas pris en compte, une société pratiquement perd son orientation. Parce que, comme société, nous nous organisons, comme l'exemple que vous aviez donné, nous nous organisons de telle sorte que tout nous rapporte et nous ramène vers le Créateur. Et quand on l'ignore, eh bien, nous allons, comme disait un philosophe, Kant, Emmanuel, nous allons vers une société qui ne va nulle part. Nous perdons le sens de l'existence. Et c'est très grave.
C'est avec cet appel au respect du sacré que nous arrivons à la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle. Merci à nos invités Kennedy Wema et M. l'abbé Henri Tiza. Merci également à Jean-Marc Matouaki qui a supervisé la production de ce magazine. Je suis Rosalie Masikazawadi. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est avec plaisir que je vous retrouve le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien.